journal. Bonsoir Pierre Veil.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. La nouvelle mouture du projet de loi de réforme constitutionnelle, l'écologie prioritaire et plusieurs mesures qui inquiétaient le Sénat sont évacuées. Une vingtaine de députés Les Républicains envisagent de créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale. Dès la semaine prochaine, nouvel épisode dans la tourmente du parti après son échec aux européennes. Le Britannique Ian Bailey, condamné en son absence à 25 ans de réclusion pour le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier. Face à l'offensive douanière de Donald Trump, le président mexicain défend son action dans la crise migratoire. « Nous faisons le boulot », dit López Obrador. Le zoo de Beauval, victime de son succès aujourd'hui. « Trop de monde, reportez votre visite », demande le directeur, nous l'écouterons. Roland Garros, Federer, poussé au tie-break, mais qualifié pour les huitièmes de finale. Qualifié aussi le français Benoît Paire, mais Lucas Pouille est éliminé. Une semaine avant le début du mondial féminin de football, les Françaises affrontent la Chine ce soir à Créteil, une sorte de répétition générale. Et puis le Conseil culturel du vendredi, une pièce d'Ibsen au Théâtre de l'Odéon à Paris, un ennemi du peuple du théâtre lié à l'actualité de 2019, nous dira Stéphane Capron.
France Inter.
Le projet de loi de révision constitutionnelle est prêt. Son examen avait été interrompu l'année dernière par l'affaire Benalla. Ce texte sera présenté en Conseil des ministres fin juin, début juillet. Son contenu est révélé par Le Monde. L'écologie est érigée en priorité. Dans l'article 1 de la Constitution, on pourra lire que la République agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques. Le gouvernement reprend ainsi une idée que soutenait Nicolas Hulot lorsqu'il était ministre de la Transition écologique. Par rapport au texte initial de l'année dernière, Cyril Graziani, on trouve des modifications pour parvenir à un consensus. On a retiré des lignes rouges qui auraient braqué le Sénat indispensable pour l'adoption de ce texte.
Le principal point de crispation, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse, avait annoncé une baisse de 30 à 25%, première avancée, car Gérard Larcher espère toujours obtenir moins de 20%. Mais pour essayer de se mettre au plus vite le président du Sénat dans la poche, le gouvernement a déjà exclu de la limitation des mandats dans le temps les maires des communes de moins de 9000 habitants et les présidents d'intercommunalités de moins de 25000 habitants, demande expresse de la présidence du Sénat. Un pan entier du précédent projet a aussi disparu, celui concernant la rationalisation de la procédure parlementaire. Dans le projet initial, il était envisagé, dans certains cas, une suppression d'une des lectures des textes au Sénat, réforme abandonnée. Il y a la volonté de dire que les assemblées parlementaires puissent s'organiser elle-même, explique Matignon. Clairement, la majorité veut mettre toutes les chances de son côté et espère peut-être aussi profiter de la crise chez les LR, davantage préoccupés en ce moment par leur survie.
Justement, Cyril Graziani vient d'en parler après le score catastrophique des Républicains aux européennes. C'est une sorte de panique à bord. L'idée du président du parti, Laurent Wauquiez, de réunir des états généraux en septembre pour revoir toute la stratégie des Républicains, cette idée n'a pas convaincu. Maxence Lambrecq, bonsoir.
Bonsoir.
Alors désormais, chacun chez les Républicains imagine des initiatives pour se sauver ou sauver le parti.
Oui, impressionnante décomposition. On vient par exemple d'apprendre que le maire de Quimper, pour se sauver, quitte les Républicains. Ludovic Jolivet rejoint Agir et donc la majorité. À Paris, plusieurs maires LR d'arrondissement veulent soutenir un candidat d'ouverture, type Jean-Louis Borloo ou Pierre-Yves Bournazel, alors qu'en région, certains sont tentés par un rapprochement avec le RN, vu leur score. À l'Assemblée, une dizaine d'élus Macron compatibles hésitent à quitter le groupe LR la semaine prochaine, pendant que 11 jeunes députés, eux, réclament un comité du renouvellement. Initiative censée affaiblir celle de Gérard Larcher. Soutenu par Valérie Pécresse, le patron du Sénat réunira entre autres mardi les présidents des associations d'élus locaux, messieurs Barouin, Morin et Bussereau, et retrouvera le lendemain Xavier Bertrand, qui garde toujours ses distances. Chacun joue donc sa mélodie, publie sa tribune. La dernière en date, c'est celle de Geoffroy Didier dans Le Monde. Le secrétaire général du parti veut se débarrasser du conservatisme sociétal et le vice-président Guillaume Pelletier veut faire de LR le parti de la laïcité. Face à cette tempête d'idées et d'ego, le patron Laurent Wauquiez va-t-il résister? Tant qu'aucune solution ne s'impose, il sauve sa place, mais pourrait bien demain piloter un navire à moitié vide.
Maxence Lambrecq, le gouvernement français a déposé aujourd'hui un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Paris ordonnant la reprise des traitements de Vincent Lambert, ce patient tétraplégique en état végétatif irréversible depuis 10 ans. La Cour d'appel de Paris, saisie par les parents de Vincent Lambert, avait ordonné le 20 mai la reprise de son alimentation et de son hydratation, alors que l'équipe de soignants du CHU de Reims venait de suspendre ses traitements le matin même.
Il était jugé en son absence par les assises de Paris pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier en 1996 en Irlande.
Oui, Claire, le Britannique Ian Bailey a été condamné cet après-midi à 25 ans de réclusion. Jean-Philippe Deniaud est au tribunal de Paris. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir Pierre.
Bailey, il a 62 ans, il clame son innocence. L'Irlande a refusé par deux fois de l'extrader.
Oui, ce soir, la cour d'assises a rendu une décision extrêmement longue et motivée. Point par point, les trois magistrats ont expliqué la somme de charges qui les ont conduits à ce verdict de culpabilité. En dépit des dénégations constantes de l'accusé, précise la présidente Frédérique Aline, nonobstant l'absence de preuves scientifiques. Il y a donc les égratignures sur les mains de Ian Bailey apparues le lendemain du meurtre, égratignures semblables à celles constatées sur le corps de la victime. Il y a les mensonges de Bailey sur son emploi du temps la nuit du crime. Et puis le témoignage de cette femme qui l'a vu errer près de la maison des Toscans du Plantier à 3h du matin. Il y a sa connaissance de la nationalité de la victime avant qu'elle soit rendue publique. Et puis, il y a ses aveux qu'il a formulés à 4 reprises, non pas à la police, mais à des proches qui ne se connaissaient pas entre eux. La Cour souligne enfin l'expertise psychiatrique faisant état d'une personnalité narcissique, psychorigide, avec un clivage pulsionnel. 25 ans de réclusion, c'est un peu moins que les 30 ans requis ce matin, en raison de l'ancienneté des faits, précise la Cour.
Jean-Philippe Deniaud, que va-t-il se passer maintenant après ce verdict?
Alors, la Cour a également prononcé un nouveau mandat d'arrêt qui va déclencher une nouvelle procédure en Irlande afin que Ian Bailey soit remis à la France. Mais bien évidemment, il pourra s'y opposer devant la Haute Cour de justice de Dublin. Il l'a déjà fait à 2 reprises au cours de l'instruction et à 2 reprises, la justice irlandaise lui avait donné raison.
Jean-Philippe Deniaud, en direct du tribunal de Paris. Le suspect de l'attentat au colis piégé qui a fait une dizaine de blessés à Lyon vendredi dernier va être présenté à un juge antiterroriste dans les prochaines heures. Il sera mis en examen, notamment pour tentative d'assassinat terroriste, c'est ce qu'annonce le procureur de Paris. Ce jeune radicalisé de 24 ans a indiqué avoir prêté allégeance en son fort intérieur au groupe terroriste État islamique et il a reconnu avoir déposé devant une boulangerie en plein cœur de Lyon l'engin explosif qu'il avait préalablement confectionné. Cet étudiant algérien en informatique vivait à Oullins, localité de la banlieue de Lyon où s'est rendu Christophe Vincent.
Plus de 24 heures après la fin de leur garde à vue, les parents et le frère du principal suspect n'ont pas rejoint la paisible résidence des IF. Dans leur immeuble, rien n'a bougé au 4e étage. L'absence de serrure témoigne encore de l'intervention policière de lundi. La famille se montrait très discrète, comme le confirme cette dame qui habite l'immeuble voisin depuis 43 ans.
Je ne l'avais jamais vu. J'ai demandé à mes enfants s'ils l'avaient vu et ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu non plus.
Et ses parents ?
Non plus. Je ne les connais pas du tout.
Une famille très discrète, presque transparente.
Voilà, tout à fait, oui. Mais enfin, ça fait peur. On est à l'abri de rien.
L'appartement abritait donc tous les composants nécessaires à la fabrication du colis, certains commandés sur Internet, sans doute livrés par le facteur.
Deux fois, il me semble, lui avoir fait signer des colis Simo à sa famille. Je lui ai remis en main propre. C'est un colis avec signature, forcément. Il me semble que c'était Amazon, même pas un mois en arrière. Ma foi, il était poli, il me paraissait froid. Mais bon, dans ça, j'imaginais pas quoi que ce soit de spécial, son appartenance politique.
Les voisins en veulent beaucoup à ce jeune homme très poli. Il aurait pu tous nous faire sauter. À Oullins, Christophe Vincent, France Inter.
Et à l'instant, on apprend que cet étudiant algérien qui est passé aux aveux a été mis en examen et écroué.
Il est 19h09 sur France Inter. On passe à l'actualité internationale avec une fois de plus Donald Trump qui agite son arme diplomatique favorite, les droits de douane.
Donald Trump a annoncé hier que les États-Unis prélèveraient à partir du 10 juin des droits de douane de 5% sur tous les produits importés du Mexique et que ces taxes, progressivement relevées jusqu'à 25% au 1er octobre, resteraient en vigueur tant que les flux de migrants clandestins ne seraient pas stoppés. Le président mexicain n'a pas tardé à réagir. Andrés Manuel López Obrador refuse la surenchère. À Mexico, Émilie Baraza.
ne surtout pas entrer dans une logique de confrontation avec les États-Unis. Ce matin, le président mexicain a été obligé, encore une fois, de faire un exercice périlleux d'équilibriste, ménager le président Trump, éviter de le braquer encore plus contre le Mexique, tout en évitant de paraître trop timoré aux yeux de ses compatriotes.
Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, car sinon nous n'aurions plus de dents. On doit chercher le dialogue, faire de la politique, de la diplomatie, avec de la responsabilité.
Le président mexicain n'exclut pas d'avoir recours à l'Organisation mondiale du commerce, mais l'heure est grave pour le Mexique, car une mise à exécution de ces taxes serait désastreuse pour l'économie mexicaine. Le peso a dégringolé depuis l'ouverture de la bourse ce matin. Le ministre mexicain des Affaires étrangères est en route vers Washington pour tenter d'apaiser la situation. À Mexico, Émilie Barraza pour France Inter.
Les sports, le tennis, Roland Garros, le point sur les rencontres avec Fabrice Sabgral qui est sur place. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Roger Federer a été poussé au tie-break par le jeune Norvégien Casper Ruud, mais il est qualifié pour les huitièmes de finale. Et puis en ce moment, Fabrice, deux Français sur les courts pour deux matchs pour les huitièmes de finale, Nicolas Mahut et Corentin Moutet.
Nicolas Mahut, le vétéran âgé de 37 ans qui tente de se qualifier pour la première fois de sa carrière en huitième de finale ici à Roland-Garros. Il s'accroche, Nicolas Mahut, il est mené 2-7-1 et à l'instant même Leonardo Meyer vient de remporter sa mise en jeu 6 jeux partout, c'est-à-dire que c'est maintenant un tie-break. C'est simple, si Nicolas Mahut perd ce tie-break, il perdra le match. En revanche, s'il le gagne, eh bien Nicolas Mahut poussera Leonardo Meyer dans un cinquième set. Le vainqueur de ce match affrontera en huitième de finale Roger Federer, dont vous avez parlé il y a quelques instants. Corentin Moutet, lui, est actuellement dans le cinquième set. Il était mené 2-7-1, mais il a remporté la quatrième manche, 7-5. 3 jeux partout entre les deux joueurs dans ce match débuté il y a maintenant 3h05. Corentin Moutet qui s'accroche face à Juan Ignacio Landero. C'est un autre Argentin classé 78e mondial. Et qui dit Argentin dit forcément spécialiste de la terre battue, mais il est là, Corentin Moutet. C'est un grand espoir, âgé de 20 ans et classé 110e joueur mondial, et le vainqueur de ce match affrontera en 8e de finale le vainqueur du match qui se déroule actuellement entre Raphaël Nadal et David Goffin, le belge sur le central. Et pour l'instant, avantage à Raphaël Nadal, 2-7-1, 5 jeux à 3 en faveur de l'Espagnol qui sert actuellement pour le match, pour la qualification.
Fabrice Sabgral en direct à Roland-Garros. Dans une semaine exactement, c'est le début du Mondial 2019 de football féminin. La France affrontera donc dans une semaine la Corée du Sud au Parc des Princes. Ce soir, dernier match amical avant le début de la compétition pour les Françaises. Ce sera face à la Chine, c'est à 21h, à Créteil, au stade Dominique Duvauchel. Guillaume Batin est sur place. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors Guillaume, ce soir c'est la grande répétition pour les Françaises ?
Oui, la troupe tricolore vient répéter ses gammes une dernière fois dans ce petit stade de Créteil avant de briller sur la grande scène du Parc des Princes vendredi prochain. Chaque joueuse connaît son rôle par cœur. Elles ont durement travaillé ces trois dernières semaines à Clairefontaine comme un artiste se retire pour préparer un album ou une tournée. Il y a celles qui jouent les premiers rôles, Amandine Henry par exemple, la lyonnaise qui est très impatiente de jouer pour de vrai. Il y a les doublures aussi prêtes à entrer au pied levé si les stars se sentent mal. Viviane Asseyi, la girondine qui sera probablement titulaire ce soir en attaque face à la Chine, la Montpelliéraine Sakina Karchaoui qui jouera sans doute aussi en défense. Quant à celle qui met tout en scène, Corinne Diacre, la sélectionneuse, elle ajuste les derniers détails avec ses assistants, les costumes sont prêts, la tunique bleue qui n'attend plus qu'une seule chose, c'est de briller devant les caméras du monde entier, d'y coudre une étoile comme on gagne un César ou un Golden Globe.
Guillaume Batin et le football donc ce soir, match amical les Françaises face à la Chine. Week-end de l'Ascension et soleil estival, l'une des destinations vedettes, c'est le zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher avec ses célèbres pandas. Problème, le zoo est confronté aujourd'hui à une influence sans pareil. C'est la saturation. Le directeur du site, Rodolphe Delors, demande que l'on reporte les visites si possible. Yann Gallic l'a joint au téléphone.
C'est traditionnellement à Ascension un très gros week-end. Nous avons juste conseillé aux visiteurs qui n'avaient pas encore pris la route de reporter leur visite à demain ou après-demain, parce que nous avions déjà beaucoup de monde aujourd'hui sur le parc, parce que tout simplement, comme c'est le seul week-end férié après le week-end de Pâques, il y a un cumul du fait qu'il fait très beau. Donc aujourd'hui, c'est le jour le plus fort de fréquentation de l'année. On s'attend à recevoir 70 000 visiteurs ce week-end. Nous sommes très connus, notre public vient de toute la France pour passer un bon week-end chez nous.
C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac, Pierre.
Et pour l'occasion, la mairie de Paris annonce l'interdiction de fumer dans 52 parcs de la capitale, soit 10% de ses espaces verts, à partir du 8 juin. Et à Marseille, une première, mesure radicale. 3 plages sont désormais sans tabac, interdit de fumer sur ces lieux très fréquentés. Lors de la saison estivale, la cigarette sera bannie des plages de Pointe-Rouge, Borély et Bonnevaine. Les parents en ont assez d'expliquer à leurs enfants de ne pas ramasser les mégots. Reportage à Marseille, Laurent Grollet.
Autant le dire tout de suite, Amine qui se roule discrètement une cigarette plage des Catalans sent comme une odeur d'hostilité.
C'est compliqué un peu, ouais. Parce qu'il y a le regard des gens. Ouais, surtout dans des plages comme ça. Après, j'ai ramené une petite boîte où je mets tous les mégots. J'ai des copains qui le font pas forcément. Je le jette comme ils le faisaient avant, quoi.
Car sur cette plage des Catalans, certaines habituées ne supportent plus que leur sable soit confondu avec un cendrier géant.
La plage, elle est pourrie de mégots. Oh là là. Si à chaque mégot on donnait 1 euro, on serait millionnaire. Regardez, monsieur, je fume. Voilà ce que je fais. Je fume dans mon cendrier.
Il faut battre, il faut mener le combat contre l'incivisme. Il faut l'apprendre, monsieur, au petit comme au grand. Il faut le petit jeu du tourniquet dans le sable avec le petit bâton blanc. Et qu'est-ce qu'on trouve? Voilà. Si on trouvait que des mégots, ça serait bien.
Et pour les parents, c'est une surveillance de tous les instants pour que leurs petits ne ramènent pas de mégots dans leur seau.
Elle a trouvé des mégots.
Il faudrait faire quoi?
Faire les plages non-fumeurs. De partout.
Il faut parce que les enfants, ils creusent dans le sable, les bébés, ils en mangent même. Donc je pense qu'en effet, oui, c'est une bonne idée qu'il n'y ait pas de mégots sur la plage.
Interdiction de fumer, on considère la plage comme un lieu public, qu'il soit aéré ou pas.
Laurent Grollet à Marseille. Claire, le téléphone sonne ce soir.
Voilà, tous les conseils pour arrêter de fumer, on sera avec 2 spécialistes qui vous diront comment faire.
Et le standard 01 45 24 7000. Le conseil culturel du vendredi du théâtre avec un ennemi du peuple à l'affiche du théâtre de l'Odéon à Paris dans une nouvelle mise en scène de Jean-François Civadier. C'est la pièce la plus politique d'Ibsen. Il l'a écrite en 1882 et il pointait déjà les scandales sanitaires. Dans une ville thermale, un médecin découvre qu'une bactérie menace les curistes. Il demande la fermeture qui est refusée par le pouvoir local. C'est un grand spectacle qui brasse beaucoup de thématiques d'actualité. Stéphane Capron a vu cette pièce d'Ibsen.
C'est incroyable, cette pièce a été écrite il y a plus de 130 ans et elle n'a pas pris une ride. Ibsen met en scène le docteur Stockmann, l'ancêtre des lanceurs d'alerte. Il se bat contre vents et marées pour empêcher un scandale sanitaire. Il se heurte au préfet, son frère, qui le fait passer pour un ennemi du peuple. Lorsqu'il s'est de nouveau plongé dans le texte, Nicolas Bouchot, qui interprète Stockmann, a été saisi par la modernité de la pièce.
C'est drôle parce que moi quand j'ai lu la pièce la première fois il y a 25 ans, l'histoire des eaux, pour moi, c'était un argument d'Ibsen pour déployer sa pièce. Aujourd'hui, évidemment, il est assimilé au lanceur d'alerte puisqu'il défend une cause qui est dans tous les journaux et dans toutes nos vies tous les jours et qui le sera de plus en plus.
Le metteur en scène Jean-François Civadier met le public à contribution car Ibsen avait déjà inventé le concept de grand débat en 1882. Faut-il préserver la santé ou protéger les intérêts économiques? Il pose clairement la question. Stockmann a-t-il raison ou non de se battre contre le pouvoir politique en place? Est-il, oui ou non, un ennemi du peuple? Est-il, oui ou non, un populiste? Les acteurs sollicitent tous les soirs l'avis des spectateurs dans une mise en scène frontale et directe menée sur un rythme d'enfer.
Voilà la musique de Woodkid qui sert de bande originale à ce spectacle, un ennemi du peuple d'Ibsen, jusqu'au 15 juin à l'Odéon, Théâtre National de l'Europe à Paris. Et puis en tournée dans toute la France l'année prochaine, c'est un spectacle France Inter. Et puis culture et politique, Elton John a poussé un coup de gueule contre le Brexit lors d'un concert de sa tournée mondiale en Italie, à Vérone, mercredi dernier. C'est le quotidien The Independent qui le raconte devant son piano avant d'entamer son morceau Billy. Il s'est mis en colère et il a dit « Les politiciens me rendent malade à mort, surtout les politiciens britanniques. Le Brexit me rend malade à mort. Je suis un Européen, pas un idiot d'anglais impérialiste et colonialiste. » Voilà, fin de citation. Au cinéma, Elton John, c'est en ce moment avec ce film Rocketman et puis des concerts à Lille, au stade Pierre-Mauroy le 18 juin, à Bercy, à Paris le 20 juin, c'est complet. Moi j'ai mes billets depuis un bon moment.
Mais c'est ce que j'allais dire, vous n'êtes pas un peu fan sur les bords là?
Absolument. Les Arènes de Nîmes aussi, vous le verrez aux Arènes de Nîmes le 23 juin. Concert supplémentaire pour ceux qui l'ont raté à Paris le 10 octobre 2020.
La location. Vous allez faire toute la tournée comme ça?
Non, non, la location est déjà ouverte. C'est vrai quand même, Elton John quand il chante, par exemple, Goodbye Yellow Brick Road, c'est toujours un ravissement musical.
C'est vrai.
le chante sur scène.
Est-ce que vous dansez bien, Pierre Veil ?
Goodbye, Yellow Brick Road, Elton John, c'était en 1972. On retourne quelques instants à Roland Garros pour retrouver Fabrice Abgral. Fabrice, Mahut a perdu ?
Oui, malheureusement, Nicolas Mahut vient de perdre son troisième tour. Il ne jouera pas les huitièmes de finale. C'était son rêve pourtant, lui, à 37 ans, d'atteindre pour la première fois les huitièmes de finale à Roland-Garros. Il vient d'être battu en 4-7 par l'Argentin Leonardo Meyer. Nicolas Mahut en larmes. Il a peut-être pris conscience aujourd'hui qu'il disputait peut-être en simple son dernier match.
Merci Fabrice Abgal. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez Claire Servageant.
Merci beaucoup Pierre Veil. Bon week-end à vous. Le temps de ce week-end justement, c'est tout de suite.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir.
C'est l'été, hein, y a pas de photo.
Effectivement, du matin jusqu'au soir, le soleil va irradier le pays. Les quelques brumes ou grisailles présentes au lever du jour seront vite balayées et le soleil sera tout bleu. En montagne, de petits cumulus vont fleurir l'après-midi. Sur les Alpes du Sud, ces nuages pourront donner naissance à une averse. Et puis la chaleur va aussi s'accentuer. Elle est maximale grimpant entre 22 et 31 degrés avec jusqu'à 34 degrés dans le sud-ouest. Prévoyez par exemple 30 degrés à Paris, à Lyon, à Nevers, à Nantes, à Tarbes, à Montélimar ou encore sur l'île d'Oléron.
Et même programme dimanche.
Oui, les températures seront même en hausse. Les maximales à plus de 30 degrés seront encore plus fréquentes. La journée se passera à nouveau sous le soleil. Quelques averses localement orageuses pourront quand même éclater sur le Mercantour l'après-midi. Et puis entre l'Aquitaine et la Normandie, le ciel va progressivement se voiler avec un voile plus dense entre la Basse-Normandie, la Vendée et la Bretagne. Ce sont les prémices d'une perturbation qui donnera déjà des pluies avant la fin de journée sur le Finistère et le Morbihan. Cette perturbation sera peu active mais va traverser le pays lundi. Et à l'avant de cette perturbation, le temps sera instable avec des averses et même quelques coups de tonnerre possibles en fin de journée sur le nord-est, mais peu importe les nuages et les averses, je vous promets un joli coup de soleil, un joli rayon de soleil en tout cas pour lundi, puisque ce sera le grand retour de la lumineuse Elodie Calac.
Pas besoin du coup, merci beaucoup.